Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MGV, c'est vous qui représentez le système.
Il est 9h40 tout pile sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
On ne les avait pas vus venir, ces émissions de mise aux enchères qui ont envahi la télévision en France, aux États-Unis, en Allemagne. Partout on vend, on achète, on rachète, on marchande. Les experts acheteurs, brocanteurs, commissaires-priseurs sont devenus les nouveaux héros du petit écran pour leur capacité non pas à donner de la valeur, mais un prix aux choses. Bref, après la cuisine, les objets, notre société se dématérialise et pourtant elle revient à ce qui a un poids, une matière et une histoire. Avec un seul mot à la bouche quand même, combien ça coûte? Parce qu'on n'a jamais autant et aussi concrètement parlé d'argent.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Sophie Davant.
Bonjour.
Affaire conclue tous les après-midi sur France 2 à 16h. Sauf qu'en ce moment, on skie l'après-midi sur France 2.
C'est vrai, c'est la diffusion des Jeux Olympiques d'hiver.
Voilà, et ça vous laisse souffler, et ça vous laisse le temps de passer nous voir. C'est une bonne chose. Avec nous ce matin également Iris Bray. Bonjour Iris.
Salut Sonia.
Avec les codes de la presse masculine en pleine mutation, ou pas, on va voir. Sophie Davant, on va parler évidemment mise aux, enfers, c'est joli comme la plus, la mise aux enfers. On va parler mise aux enchères, on va parler affaires conclues, qui est l'émission qui cartonne dans les après-midi de France 2, qui ont démarré bien bas et qui remonte. En attendant, je voulais quand même vous poser la question, parce que vous avez prêté votre image à une campagne de pub pour les régimes Comme J'aime. Le spot est diffusé sur les antennes de France Télévisions, entre autres, hein, pas seulement sur les antennes de France Télévisions. Il a fait bondir l'un des syndicats de la maison, le syndicat FO, qui s'en est ému dans un communiqué, extrait du spot en question.
Grâce à Comme J'aime, Louise a perdu 44 kilos. Pourtant, vous aviez l'air de vous assumer puisque vous participiez à des concours de beauté pour femmes rondes.
Oui, en effet, mais je n'aimais pas du tout l'image que je me renvoyais dans le miroir.
Qu'est-ce que ça a changé en vous ?
Je suis devenue une femme confiante et sereine aujourd'hui.
Voilà, cette campagne de pub s'inspire en outre du ton et de la forme des émissions qui ont battu la notoriété de Sophie Davant. Voilà, ça ce sont les mots du syndicat qui précise que ce mélange des genres pour un produit au résultat plus qu'incertain s'adresse à une catégorie de consommatrices fragilisées, susceptibles d'être abusées. Ne contrevient-il pas aux règles de base de la déontologie du service public ? Bref, le syndicat mélange... pointe un mélange des genres. Vous vous réagissez comment ?
Alors moi je réagis, j'ai accepté cette pub justement parce que on me demandait de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire d'interviewer des gens. Je vante pas moi directement le produit, Je me contente d'interviewer les gens. Ensuite, on a abusé de mon image sans que je puisse intervenir sur les réseaux sociaux ou sur internet, sur une histoire de pub de crème anti-rides où on voit apparaître mon image. Ça fait
alors
deux
ça n'a rien à voir donc avec la pub Comme J'aime.
Mais je me suis sentie victime de ça. J'avais pas choisi de faire cette pub et pourtant on continue à utiliser mon image.
C'est une marque qui a utilisé votre
voilà,
visage.
Et j'ai déposé plainte. Mon avocat a déposé plainte auprès de la DGCCRF. Le service juridique de France 2 s'en est emparé et on n'arrive toujours pas à retrouver les auteurs qui sont basés à l'étranger et qui régulièrement diffusent cette pub anti-rides sur les services publics qui là, je sais, est un produit absolument inefficace et une escroquerie. Donc j'ai été victime de ça. Donc lorsque Comme J'aime m'a proposé de faire cette pub, jusqu'à présent je n'ai jamais accepté de faire de la publicité. Je me suis renseignée sur le produit. C'est une entreprise familiale française. On propose à des personnes des plats élaborés avec diététiciennes, avec tout un programme adapté à la personne.
C'est pas tellement ce que conteste le syndicat
donc,
en
non,
fait
non,
dans
mais
son
ce
communiqué.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un médicament miracle pour maigrir. Ce sont de vrais plateaux repas
mais ce que,
élaborés
ce que pointe
en fonction.
Le syndicat Sophie Davant, c'est que simplement ça entretient une forme de confusion parce que on vous voit assis sur un canapé en face d'une femme qui est en train de maigrir, que finalement ça ressemble beaucoup au dispositif de cette émission de témoignage que vous animiez jusqu'à l'année dernière sur France Télé, et que on a l'impression que déontologiquement la frontière est pas très claire. Voilà ce que pointe le communiqué.
Voilà, on me voit sur un canapé interviewer quelqu'un, mais il n'y a pas les codes de l'émission et je suis dans une maison et voilà, et je suis j'ai un rôle d'animatrice intervieweuse. Voilà, point final.
Iris Bray, depuis plus de 50 ans, le célèbre hebdo américain Sports Illustrated publie un numéro de, comment dire, un numéro spécial maillot de bain, ultra sexy pour la Saint-Valentin. Sauf que cette année, il a voulu être différent ce numéro.
Le magazine masculin a confié la séance photo à une équipe entièrement féminine, nom de code l'opération In Her Own Words, avec leurs propres mots. Mm-hmm. L'idée, donner la liberté aux mannequins d'inscrire des mots au feutre noir sur leur corps pour qu'elles puissent dire qui elles sont vraiment. On peut donc lire sur la cuisse de l'une d'entre elles le mot créative, sur sa clavicule mère, et enfin...
Le mot mère. Je l'écris sur ma clavicule, je suis une maman,
mother.
D'accord.
Mm-hmm. Et enfin, juste au-dessus de son pubis entièrement épilé, le mot humaine. Car oui, on peut voir son pubis, évidemment pour faire passer l'aspect soi-disant féministe du projet, il fallait que ces femmes soient nues. Donc le spécial maillot de bain se fait sans maillot de bain et devient un numéro spécial femme à poil.
Comme quoi une équipe de femmes ne constitue pas une garantie contre une couve encore plus sexiste que les précédentes, c'est ça?
Oui, c'est comme si personne n'avait réfléchi à la manière dont on regarde ces femmes. Traditionnellement, Sports Illustrated prend et offre du plaisir en regardant des femmes objets. Grâce à de pudibonds cache-tétons posés sur de jolies blondes, ce magazine officiellement familial vend pour 35 millions de dollars de pub juste pour ce numéro. Mais le swimsuit issue n'est pas seulement un support masturbatoire, c'est aussi un rendez-vous qui a façonné son époque, comme en 1965. Pour un premier spécial maillot de bain, le magazine rompait avec la mode des mannequins à l'allure de Twiggy.
C'est-à-dire très très maigre, très brindille. Ouais.
Pour promouvoir la femme californienne, grande et musclée à l'allure saine. Une décision qui a quand même bousculé le monde de la mode et de la beauté. Et face au mouvement MeToo, ils ont voulu marquer le coup, voulant montrer que les mannequins ne sont pas seulement des objets de désir, mais qu'elles peuvent aussi être et penser.
Voilà, et pour vous Iris, c'est un énorme raté.
Oui, c'est ce qu'on appelle un fail. Hein. Ce ne sont pas, parce que ce n'est pas les mots inscrits sur les corps qui restent en mémoire, mais c'est vraiment la manière dont ces corps nus sont mis en scène. La chef de ce projet voulait que les photos soient sexy. Du coup, les filles pose comme la Vénus de Botticelli ou comme une femme en position de jouir avec son dos qui se cambre. Des images toujours liées à un imaginaire masculin qui se cantonne finalement toujours à ces deux images, soit la Vierge effarouchée, soit la putain déchaînée. Bref, aucune rupture culturelle. Ici, on continue de sexualiser le corps des femmes pour vendre du papier et faire du clic. Le journal a beau croire en son féminisme naissant, et peut-être il est sincère, il s'avère incapable de réinventer ce à quoi notre époque aspire, une nouvelle esthétique du désir.
Voilà, pour une nouvelle esthétique du désir. Merci Iris. Sophie Davant, on va en venir aux enchères, mais je voulais quand même redire un petit mot de toute une histoire, qui est donc ce programme de témoignages, de confessions, de confidences que vous avez animé sur France 2. Je me suis demandé, moi, finalement, si le hashtag MeToo, c'était pas un bon résumé de la vocation de ces émissions de télé, c'est-à-dire moi aussi, ça m'est arrivé. Et je me sens moins seule, parce que je viens le raconter à la télévision, et simplement aussi la téléspectatrice ou le téléspectateur se sent moins seul parce qu'on le lui raconte à la télévision.
Bien sûr, c'était le moyen rêvé pour des gens isolés de se retrouver, et le fait de partager la même problématique, c'était déjà un début de thérapie pour eux.
C'est ça, c'était vraiment MeToo.
Ouais, exactement.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Affaire conclue, des objets très communs parfois et d'autres beaucoup plus insolites. Vous allez voir, inventaire à l'après-Vert.
Aujourd'hui, dans Affaire conclue, je viens vendre une petite boîte à musique qui est en même temps nécessaire de couture.
Un uchikake, qui est un manteau qui se porte sur une robe de mariée japonaise.
Une torche olympique des Jeux olympiques de Turin 2006.
Une couronne de mariée.
Ce magnifique petit chien horloge. Qui donne l'heure avec ses yeux.
Nous a beaucoup plu le petit chien horloge qui donne l'heure avec ses yeux. On a aussi trouvé un coffret d'ophtalmologiste, une poinçonneuse du métro, etc. Ça commence, Sophie Davant, par un long moment passé avec l'expert sur l'histoire de l'objet, la date, l'usage. L'occasion de découvrir que des têtes de chenets ne sont pas des chenets, n'est-ce pas? Et que d'avoir un petit cours sur le vocabulaire ornemental, la vérification du filetage des vis pour savoir si c'est époque Louis XVI ou Napoléon III. Bref, l'objet a une histoire en lui-même.
C'est entre autres ce qui est intéressant dans cette émission, c'est que on peut dire ça fait partie des missions du service public là pour le coup, c'est-à-dire que c'est un moyen assez ludique d'apprendre des choses aux gens qui regardent. Donc il y a plusieurs clés d'entrée et plusieurs clés qui expliquent le succès probablement de ce programme. C'en est un, je pense, c'est-à-dire que grâce aux lumières des commissaires priseurs, on en apprend effectivement effectivement sur le contexte historique ou sociologique d'un objet.
Voilà, alors comme je le disais, on les avait pas vues venir, ces émissions de mise aux enchères qui existent sur plusieurs chaînes et dans plusieurs pays au monde, avec des formats différents. On attendait finalement à une déclinaison des pâtissiers. On s'attendait à avoir le meilleur boulanger, ça a fait long feu. Mais on pensait aller jusque, voilà, au meilleur poissonnier. On pensait vraiment aller du côté des artisans. Ça disparaît petit à petit complètement. Et c'est remplacé par ces émissions où tout le monde a quelque chose, soit à vendre, soit à acheter. Vous l'expliquez comment, Sophie Davant ?
C'est compliqué à expliquer. Je pense que les gens se projettent, évidemment, en regardant cette émission-là, que les gens regardent ce qu'ils ont autour d'eux, dans leur maison, dans leur salon, en se disant, bah tiens, bah, ce que j'ai là, ça pourrait valoir tant. Je pense que dans une société où le pouvoir d'achat diminue, on peut se dire qu'on peut se faire quelques sous, on peut arrondir les fins de mois en venant vendre quelque chose. Voilà, il y a certainement une projection, ça fait rêver aussi.
Il y a l'idée quand même que chacun finalement a du patrimoine. Chacun a du patrimoine dans une France, en effet, où les gens se sentent déclassés. C'est le sous-titre de l'émission. Tout le monde a quelque chose
à vendre.
Chacun
a du patrimoine et chacun a une histoire. Ces objets expriment aussi des histoires familiales. Souvent, on reçoit des gens qui viennent vendre le vase de l'arrière-grand-mère ou la commode de la grand-mère.
Alors, attendez, on va écouter un monsieur qui vient vendre des petites voitures.
Je viens vendre un peu plus d'une dizaine de Dinky Toys, qui étaient mes jouets quand j'avais 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais plus. Ce sont mes parents qui m'offraient ces Dinky Toys quand j'avais de bonnes notes. Je ne vais pas m'en séparer, que j'irai à n'importe quel prix non plus. Que j'irai, voilà, c'est mon enfance qui est là.
On va parler évidemment du prix, mais d'abord il y a la valeur affective. On arrive avec l'histoire de l'objet.
Moi, c'est ça qui m'a intéressée quand on m'a proposé ce programme. J'avais eu de la peine à arrêter toute une histoire parce que j'aimais présenter cette émission, j'aimais les rencontres humaines et j'aimais creuser un peu dans l'intime et dans la psychologie. Et ça m'intéressait de rencontrer tout le monde et d'essayer de les faire exister en peu de temps et d'essayer de les ramener à leur histoire et de recueillir une émotion liée à un objet.
Ceci dit, le rapport que chacun a aux objets dit beaucoup de nous tous, dit beaucoup. Ceux
évidemment
qui ne jettent rien, ceux qui gardent tout, ceux qui se débarrassent, ceux qui vendent, y compris un album de Cabu dédicacé à son propriétaire et à sa femme. D'autres ne vendraient jamais, jamais ça. Au contraire.
Exactement. Et puis, c'est parfois l'occasion aussi de venir rendre hommage à un être cher disparu. Voilà, on vend un objet qui lui a appartenu pour lui rendre hommage à la télé aussi. Donc, il y a de vrais moments d'émotion. Et puis, c'est la vraie vie, parce que tout le monde peut participer à cette émission. Il n'y a pas de casting sur les individus, il y a un casting sur les objets. Donc c'est peut-être la seule émission aujourd'hui à la télé qui accueille tout le monde. Et je crois que ça aussi, c'est l'une des dimensions qui fait que le téléspectateur se projette.
Alors on prend le temps de parler de petites sommes. Parfois très petites, parfois pas si petites comme ça, mais vraiment, c'est à l'euro près.
Allez, je suis le brocanteur des causes perdues. 40 euros, monsieur.
Oh non. C'est un peu...
Vous savez, ça, malheureusement, vous savez, ça ne vaut pas tellement plus. Ça vaut...
Mettez ça sur Internet, vous allez voir.
Vous savez quoi ?
C'est invendable.
Faites un petit effort, quand même.
Je vous en offre 40 euros.
On l'a déjà fait l'effort.
Mais que pour les deux cassolettes. Je vous offre l'horloge.
J'aimerais bien vendre l'ensemble.
Allez, je mets 10 euros sur le milieu.
Et 40 euros
Julien
sur
40,
les deux extrémités.
Ça fait 50, monsieur.
L'argent n'a jamais fait son entrée aussi concrètement à la télévision. C'est pas comme les jeux de TF1 où on met en scène de fausses valises d'argent, de faux lingots d'or. Là, vos experts et vos acheteurs sortent leur portefeuille et sortent des billets de 10, 20, 50, 100 euros qu'ils mettent sur la table et on voit les gens prendre les pièces et prendre les billets, les mettre dans leur poche. C'est rare en fait. En fait, on ne voit jamais ça à la télévision, Sophie Davant.
Non, alors moi j'étais partagée...
C'est même une forme de tabou, hein.
Ouais, moi j'étais partagée là-dessus, mais j'avais peur que les gens soient choqués de ça, mais en fait pas du tout.
Non, ça passe très naturellement.
Je pense que c'est la vraie vie, voilà. Quand les gens vont acheter leur pain, ils sortent leur argent. Et je pense que c'est ce qui ressort de cette émission, c'est que c'est du naturel, c'est de la vérité. Et je pense que ça passe à l'antenne et peut-être que les gens ont besoin de ça.
Alors, on touche, on sous-pèse, on passe son temps hein, à tripoter. Je dis, il y a vraiment quelque chose, un rapport à l'objet, à la matière, à la réalité et tout ça. Alors, évidemment, on est dans un monde de plus en plus dématérialisé. Et en même temps, on se dit que s'il n'y avait pas eu eBay ou s'il n'y avait pas eu Le Bon Coin et autres réseaux sociaux d'enchères et de petites annonces, est-ce qu'une émission comme ça aurait vu le jour ?
Probablement non.
Parce que là, vous avez des gamines de 23 ans qui viennent vous voir. Ouais, et donc, c'est la génération qui a grandi avec eBay et Le Bon Coin.
C'est vrai. Mais moi, je ne suis pas une sociologue des ventes aux enchères. Hein. Moi, je suis l'animatrice de cette émission. Donc, après, pour vous expliquer le succès, moi, en tant que professionnelle de la télé, je sais à peu près ce qui peut toucher les téléspectateurs. Ouais. Mais je ne suis pas sociologue.
Sauf que le succès arrivant, Sophie Davant, les gens qui viennent vous voir, est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux ? Parce qu'on sent qu'ils connaissent l'émission maintenant.
Oui, ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont attachés à cette émission. Et surtout, on reçoit après chaque émission 300 coups de fil de gens qui proposent un objet.
Ah
donc,
bon ?
Ce qui nous donne aujourd'hui l'occasion de pouvoir choisir les objets et d'upgrader tout ça parce que évidemment ce qui est intéressant c'est de présenter un objet pas cher du tout jusqu'à un objet qui fait rêver parce que là on atteint 3000, 4000 voire 5000 euros.
Voilà,
ça nous est arrivé c'est ce mélange qui est intéressant et c'est là-dessus que les gens peuvent se projeter. Il faut aussi faire un petit peu rêver ceux qui regardent. Voilà,
mais donc, c'est vrai qu'on sent qu'avec avec Le Bon Coin,
moi, je me régale
eBay,
avec les objets liés à l'histoire de l'art, c'est sûr, avec des commodes, avec des tableaux, avec...
C'est ça, c'est ni le vide-grenier festif, mais vraiment de pacotille, ni l'objet placé de manière un peu honteuse au Mont-de-Piété. On est vraiment dans un entre-deux où on s'amuse à faire ça, on récupère de l'argent parce que les gens qui vendent en général leurs objets sur Le Bon Coin ont besoin de cet argent et en même temps, on partage cet amour.
Oui, puis il y a aussi cette idée que j'aime bien, c'est l'idée de donner une deuxième vie.
Oui.
Voilà. Donc ça aussi, ça leur permet de venir et de raconter l'histoire familiale de l'objet, ce qui les lie à cet objet. Et moi, je suis souvent interpellée parce que je leur dis, mais vous êtes liés effectivement à cet objet que vous avez toujours vu dans votre famille, chez votre arrière-grand-mère, chez votre grand-mère, etc. Oui, mais voilà, il n'est plus assorti à notre déco, on n'a pas envie qu'il sommeille au fond d'une armoire et on veut lui donner une deuxième vie. Et je trouve ça, j'aime bien cette idée de transmission et de deuxième vie.
Je vous fais écouter parce que comme vous faites parler en très peu de temps vos invités, enfin les candidats, je ne sais pas comment vous les appelez, ceux qui viennent participer et vendre leurs objets. Parfois, du coup, vous leur répondez avec un petit bout de vous-même.
Bonjour.
Bonjour, Sophie.
Grand golfeur ?
Un grand golfeur, j'aime ça, oui.
Ah, comme moi. Très bien, on s'en fiche, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc...
Moi, ce qui m'a amusée quand j'ai entendu ça, je me suis dit, voilà, Sophie Davant, ça fait longtemps qu'elle fait parler les gens à la télévision, parfois de manière très, très intime. Et au fond, vous réussissez à vous forger ce personnage qui est très dans la proximité, dans l'écoute, dans la gentillesse, etc. Et en même temps, vous en dites très, très peu de vous-même quand on regarde bien, quand on écoute vos émissions et quand on les regarde.
Très peu ou beaucoup, finalement ? Ça dépend comment on l'interprète. Et puis je n'aime pas quand vous dites vous forgez le personnage de. Je suis juste moi-même et naturel. Je ne forge pas un personnage. Je suis dans l'empathie. J'aime les gens, j'aime les rencontres. Donc c'est très naturel pour
moi.
Mais
où l'animatrice de télé met-elle le curseur quand il s'agit de dire ah bah moi aussi.
Oh bah je le mets pas. je le mets pas beaucoup au fond parce que les gens qui me regardent depuis longtemps me connaissent bien finalement. Donc, il y a des choses que je raconterai jamais, et il y a des choses que j'ai racontées, des choses très intimes que j'ai racontées. En fait, je raconte et je dis quand je pense que ça peut, que les gens peuvent s'y retrouver. Et en général, quand je raconte, c'est pour donner des clés à ceux qui vont partager cette confidence.
Merci beaucoup, Sophie Davant.
Merci.
Affaire conclue dès qu'on aura arrêté de skier l'après-midi sur France 2. Bonjour, Ali Réveillé.
Bonjour, Sonia De Villers.
Alors, les plaques et les boutons.
Bah oui,
et comment
matin,
ça nous fout le moral
matin,
par terre.
Ce matin, je vous propose une émission consacrée à l'impact psychologique des maladies de peau, qu'il s'agisse de l'acné, du psoriasis, du zona, du vitiligo, de l'eczéma ou encore de certains cancers dermatologiques. Comment vivez-vous ces maladies ? 01 45 24 7000.